VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Crise en Libye, l'ONU a fait état ce jeudi d'un accord sur l'organisation d'élections en Libye entre Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Les deux leaders ont conclu cet accord mercredi à Abu Dhabi sous l'égide de l'ONU. Ils se sont entendus sur la nécessité d'organiser des élections et de mettre fin à la période de transition dans le pays, a indiqué dans un tweet en arabe la MANUL, la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi à l'unanimité une résolution poussant à arrêter toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Les pays africains avaient pris cet engagement depuis 2013, mais ils ne l'ont jamais concrétisé jusqu'à présent. Le point avec Nani Talani.
Il appartient à l'Union africaine, à ses États membres, à leur population et à leurs institutions, y compris leur société civile, de construire une Afrique sans conflit, souligne la résolution de l'ONU. Le Conseil de sécurité exprime son appui aux initiatives visant à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le but d'une Afrique sans conflit figurait déjà dans une déclaration adoptée le 26 mai 2013 lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine. Un projet de résolution initié fin 2018 par l'Afrique sur un cofinancement par l'ONU d'opérations de paix africaines reste dans l'impasse. En 2019, les plus importantes opérations de paix sur le continent sont notamment au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Centrafrique ou au Mali. Pour jeter les bases solides d'une paix et d'une stabilité durable, l'ONU engage les États membres de l'Union africaine à renforcer la bonne gouvernance, l'élimination de la corruption, le renforcement des institutions démocratiques, le respect des droits de l'homme et la responsabilité.
Le Burundi semble avoir finalement renoncé à s'opposer au départ de 1000 soldats de son contingent au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. C'est ce qu'affirment ce jeudi des sources diplomatiques africaines et militaires burundaises. Après avoir décidé unilatéralement dimanche d'interrompre le retrait commencé 3 jours plus tôt, le gouvernement burundais est finalement revenu à la raison. Le 21 février, le Burundi avait retiré de Somalie 201 soldats, puis 171 samedi dernier. Mais dimanche, Bujumbura a refusé de poursuivre ce retrait selon le calendrier prévu, dénonçant une nouvelle fois une injustice à son égard et exigeant la tenue urgente d'un sommet des chefs d'État des pays contributeurs de troupes pour la mission. Le président burundais, Pierre Nkurunziza s'est toutefois heurté à l'opposition résolue de l'Union africaine et des autres pays contributeurs. La présence de soldats burundais en Somalie constitue une source de revenus en devise pour le Burundi, ce qui explique la résistance du pays à la décision de l'Union africaine en décembre dernier, réclamant le retrait de 1000 soldats du contingent burundais du territoire somalien d'ici au 28 février, dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de la MISOM. Au Congo-Brazzaville, l'ancien ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, André Okombi-Salissa, a nié mercredi avoir détenu illégalement des armes et des munitions de guerre. Il comparaît devant la justice congolaise qu'il accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Raissa Girondin.
Je n'ai jamais détenu illégalement des armes et des munitions de guerre, a déclaré M. Okombi-Salissa à son procès devant la cour criminelle à Brazzaville. Selon ce tribunal, des armes ont été saisies en 2016 dans un domicile appartenant à son épouse, 17 Kalachnikov, des lance-roquettes et plus d'une dizaine de caisses de munitions ont été présentées sous scellé à l'audience. L'expertise de l'armée a démontré que ces armes lui appartiennent. Elles ne peuvent pas appartenir à la fois à l'armée et à moi, a réagi l'accusé, ajoutant « Si je n'avais pas pris part à l'élection présidentielle de 2016, je ne serais pas ici, devant la barre ». ancien membre du PCT au pouvoir, ministre dans tous les gouvernements de 1997 à 2012, André Okombi Salissa, 56 ans, est passé à l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2016, remportée par Denis Sassou Nguesso. Monsieur Okombi Salissa n'a jamais reconnu les résultats, tout comme un autre candidat, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 71 ans, ancien chef d'état-major, qui a été jugé et condamné en 2018 à 20 ans de prison.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique centrale toujours réunie à Yaoundé, des organismes environnementaux de la sous-région et les partenaires internationaux ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme sur le danger de la conversion des terres forestières en Afrique centrale. Une étude conduite depuis 2016 au Cameroun, en République du Congo, au Gabon et en République centrafricaine indique que les grands projets de développement sont devenus facteurs de déboisement dans ces quatre pays de la sous-région. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le Gabon ambitionne devenir un pays émergent en 2025, soit 10 ans avant le Cameroun. Des ambitions qui imposent à ces deux pays la réalisation de grands projets d'investissement, causant par la même occasion la disparition des forêts. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, une ONG basée au Cameroun.
La construction d'un port, ce n'est pas une activité forestière. Mais quand ça se fait sur la zone forestière, cela se traduit par un défrichement de la forêt. En marge, normalement, des processus d'attribution des terres forestières, on s'est rendu compte que la législation n'est pas suffisamment précise sur ce volet-là qui devenait de plus en plus important dans notre pays.
Depuis 2008, plus de 3 millions d'hectares de terres forestières ont été concédés en Afrique centrale pour l'agriculture industrielle, la mine et les grandes infrastructures, affirment les ONG environnementales. C'est notamment le cas en RCA. Saint-Jérôme Sitamon, de l'ONG La Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmée.
L'exploitation minière, elle est censée par exemple être faite à une certaine distance de la route. Or, les gens exploitent, ça rentre dans la route. Il y a des problèmes environnementaux graves. Il y a même des forestiers, n'est-ce pas, qui s'investissent dans l'exploitation minière alors que ce n'est pas dans leur mandat. Ces dérives-là, on a pu dénoncer.
Pour espérer réduire l'exploitation illégale et les changements de couvert forestier, dans le cadre d'investissements non forestiers, les législateurs d'Afrique centrale ont été intégrés dans le projet lancé en 2016. Cependant, le phénomène perdure. Jean-Jacques Zam, député et coordinateur Cameroun du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.
Il y a des gens qui disent qu'ils veulent investir, par exemple, dans l'agriculture. Ils prennent des permis au niveau du gouvernement. Tout cela ne se traduit pas par des investissements non forestiers.
Quelques résultats probants ont été néanmoins enregistrés à travers l'activisme des ONG, en République du Congo par exemple, où la conversion des terres au profit des grands projets d'investissement a été réduite de 60%. Alban Ntiété, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Il y a eu pas mal de activités agro-industrielles qui ont déboisé, notamment la société Atama Plantation, qui aujourd'hui, vu les activités sont suspendues, et qui avait acquis une superficie de 500 000 hectares pour pouvoir mettre en place les plantations de palmeraies. Vous vous rendez compte que c'était vraiment une situation qui était criarde.
Selon les experts, seule une révision de la législation forestière peut réduire les risques d'exploitation forestière illégale et le changement de couvert forestier consécutif aux grands projets d'investissement en Afrique centrale. Yaoundé, Emmanuel Jolouta, VOA Afrique.
Dossier nucléaire nord-coréen maintenant. Le président américain Donald Trump et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, se sont séparés sans accord après leur sommet à Hanoï au Vietnam. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements sur la dénucléarisation. Ce ne fut pas le cas. Eric Maniratiza.
Les deux dirigeants ont eu des réunions très constructives et ont discuté des différentes manières d'avancer sur des concepts en rapport avec la dénucléarisation et l'économie, a expliqué la présidence américaine dans un communiqué. Aucun accord n'a été conclu pour le moment, mais leurs équipes respectives ont hâte de se rencontrer à l'avenir, souligne par ailleurs le texte. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements pris à Singapour en juin dernier. Les deux dirigeants avaient alors écrit une page d'histoire, mais seulement signé une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule, les deux camps divergeant sur le sens de la formule. Si Kim Jong-un a évoqué à Hanoï la perspective d'une représentation permanente des États-Unis à Pyongyang, Donald Trump avait tempéré dès avant la rencontre les espoirs de percer à court terme. Je ne suis pas pressé de parvenir à un accord qui verrait la Corée du Nord mettre au rebut son arsenal nucléaire, a répété Donald Trump. La vitesse n'est pas si importante que ça pour moi, a insisté le locataire de la Maison Blanche.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.